Il nous a été annoncé la parole du Seigneur à l'instant qu'elle allait venir et nous être annoncée. Elle le sera dans un passage de l'Ancien Testament, le livre du Lévitique, et puis dans un passage de l'Évangile de Marc au chapitre 1. Pendant que la vidéo ou le projectionniste travaille à la projection du chapitre de Marc, nous allons lire le texte de Lévitique, Lévitique chapitre 13. Oula, ça marche, c'est déjà prêt. Lévitique ne sera pas projeté, mais ces deux textes, et en fait il y en a trois, viennent de la liste des textes qui sont proposés pour les églises tous les dimanches. C'est une liste que l'on trouve dans un dépliant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « La Bible en 6 ans », qui était édité par la Ligue. Il fut un temps, aujourd'hui, je crois que c'est... je ne vais pas donner un bon copyright, je ne sais pas qui imprime. C'est disponible en PDF, c'est libre d'accès, vous pouvez le télécharger. Donc voilà d'où viennent les textes qui nous sont proposés ce matin. Ça a l'avantage de sortir le pasteur de ses dadas, parce que c'est un texte imposé du coup. Mais ça a aussi l'avantage d'avoir une prédication qui peut être en communion avec beaucoup d'églises. Voilà pour la petite intro. Et nous arrivons maintenant à la lecture de la parole de Dieu, avant laquelle nous avons besoin de son esprit pour la comprendre, au sens de comprendre, de prendre avec soi au plus profond. Une lecture sans l'esprit nous cacherait sans doute ou nous rendrait incapables d'en saisir la profondeur. C'est pourquoi nous comptons sur Dieu et sur l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs au moment de ces lectures. Le livre de Lévitique, chapitre 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. » Vient ensuite toute une description sur la procédure à suivre dans l'examen, et cela se termine au verset 45-46 du même chapitre. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe, il criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Par le mot « camp », il faut comprendre la communauté des croyants. Et on va essayer de se détacher de la notion sanitaire ou hygiénique de cette question abordée là, de la lèpre, parce qu'elle n'est pas, me semble-t-il, dans ce texte du Lévitique vue sous cet angle, mais elle est vue sous l'angle de la séparation entre ce qui est pur et impur. Ici, nous parlons de la lèpre et nous allons rencontrer un lépreux en chair et en os. Mais là, il est question d'impur et de pureté par rapport à toutes sortes de choses, des objets, des animaux qu'on doit manger ou pas manger, ou même des handicaps ou des choses que des personnes porteraient sur elles-mêmes qui ne sont pas des maladies, mais qui les rendent impures. Et la conclusion de ces dispositions de la loi mosaïque sur de la loi de Moïse reçue de Dieu se trouve au chapitre 15 et au verset 31. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Donc toute l'entreprise de la loi de Moïse consiste donc à séparer le pur de l'impur pour que Dieu reste au milieu d'eux et pour qu'il y ait un lieu, un endroit de communion possible avec Dieu. Voilà pour les textes de l'Ancien Testament. Nous allons nous rendre maintenant dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, au verset 40. Un lépreux vient à lui. un lépreux vint à lui. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, peut-être quelques... Moi, je veux lire là. Hein. Un lépreux vient à lui, et se mettant à genoux, il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce sera pour eux un témoignage. » Lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort, à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et le projectionniste peut garder ça sous le coude. Peut-être on relistera nos versets petit à petit. Pour la conclusion, on va revenir au verset 1 tout à l'heure, mais voilà, ça va le faire. Alors, quand vous lisez un texte biblique, il vous arrive une petite portion, il vous arrive sans doute la même chose que moi, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit. Une toute première réaction qui n'est pas volontaire, qui un sentiment peut-être, une question, au contraire une joie, quelque chose. Est-ce que vous l'avez ressenti ce matin en lisant ce texte, la première chose qui s'est imposée à vous ? Ce n'est pas un texte qui a des difficultés majeures, il est très facile à comprendre. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit participatif grâce au micro d'ambiance si quelqu'un ou quelqu'une, si une personne veut se lever et dire « Moi, ce qui m'a étonné, moi, ce qui m'a fait du bien, moi, c'est ça, en quelques mots. » Quelqu'un a envie de se lancer ?
La réponse de Jésus, soit pur.
La réponse de Jésus, soit pur. Alors là, ça, c'est central, oui. Effectivement, c'est saisissant. Tout à fait. Pourquoi Jésus s'emporte ? Mince alors, j'espérais que vous n'auriez pas cette question. Ah, mystère, hein, ça c'est curieux alors. Effectivement, Jésus s'emporte. Waouh, ah, c'est très étonnant. On va y arriver, effectivement. Ça commence à donner de l'épaisseur au texte, on se dit, ouh, c'est faussement simple ce truc-là. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent. Autre chose. Exact, oui. Il est même saisi aux tripes, hein. On dira littéralement en grec, c'est le mot, je vais très mal le prononcer, j'ai amené du grec avec moi aujourd'hui, ça va être super, on va pouvoir suivre ensemble le grec. J'aime bien. C'est un ami qui m'a offert un Nouveau Testament interlinéaire, grec-français, et j'aime beaucoup le lire parce que ça fait un peu... Yoda dans la guerre des étoiles. La syntaxe grecque est très agréable. Par exemple, ayant menacé lui aussitôt, il jeta dehors lui. Donc, on lit en grec, sauf qu'on lit en français. Et donc, effectivement, Jésus est pris aux entrailles, ému aux entrailles, hein, splagniosteis, splagdisomai, hein. Pierre, il rigole, il dit, si j'étais là, moi, je le dirais mieux, quand même. Voilà, c'est vraiment là, les tripes, quoi. Ça, c'est ému. Il y a quelque chose, là, qui est peut-être en rapport avec la colère, enfin, l'emportement. Ce n'est pas la colère, hein. Jésus n'est pas en colère, mais il parle sévèrement. Il y a peut-être un rapport entre les deux. On va essayer d'y voir, quoique je n'ai pas de réponse définitive. Une petite dernière, sinon on reprend le texte. Allons-y. Un lépreux. Nous l'avons lu dans Lévitique. C'est un lépreux par disposition lévitique, par disposition juridique. Il a été déclaré tel. Il a peut-être une dermatose, il a peut-être un eczéma, un psoriasis, quelque chose de ce type-là. Mais ce n'est pas ça qu'il est question dans ce texte. c'est le résultat d'une analyse légale faite par le plus haut responsable de la communauté des croyants qui lui a dit « tu es lépreux ». S'applique à toi maintenant la législation sur les gens, non pas lépreux, mais impurs, ce qui est un peu différent. Donc les dispositions des lépreux s'appliquent à partir des textes que nous avons lus. Il y a d'autres textes sur des lépreux, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont tous très forts. D'abord, les deux parallèles au texte de Marc. Marc a son équivalent dans Matthieu au chapitre 8 et dans Luc au chapitre 5, c'est le même texte, quasi mot à mot. Nous verrons une grande différence entre le nôtre, celui de Marc, et les deux autres tout à l'heure. Ensuite, il y a la rencontre des 10 lépreux avec Jésus, ça vous dit quelque chose? La différence, c'est que Jésus leur dit d'aller voir le sacrificateur, mais ils ne sont pas guéris. Et ils deviennent purs en cheminant vers Jérusalem. Ça, c'est une différence très intéressante. Mais dans les deux cas, Jésus leur dit « allez voir les autorités de notre pays ». Et puis, il y a Naaman, le Syrien. Il y a Jésus qui donne ses mots à Jean le Baptiste dans sa prison. Les lépreux sont purifiés. Il y a donc quelque chose de très proche du ministère de Jésus. Donc, la question demeure, ce texte-là, est-ce qu'il est là pour nous montrer un nouvel exemple de la puissance de Jésus, du sens de sa mission? Ce serait à ce moment-là ce que vous avez fait remarquer. Je le veux, soit pur, ou alors il est ému de compassion. Est-ce que, et là je n'ai eu personne qui a relevé ça, alors tant mieux, mais peut-être quand même quelqu'un l'aura dit, mais l'aura pensé mais pas dit. Est-ce que c'est une leçon autour de la désobéissance? Ça vous a effleuré, quelqu'un, à penser à ça? Oh, le lépreux, il n'a quand même pas fait tout à fait ce que Jésus a demandé qu'on fasse. Voilà, on va voir un petit peu. Mais en fait, nous allons arriver à la conclusion, je vous donne la conclusion en introduction pour que vous sachiez où nous allons atterrir. La phrase centrale qui va retenir notre attention, c'est la parole de Jésus sur la finalité de la démarche que Jésus impose sévèrement à celui qui est pur. Il lui dit, c'est quoi la finalité, vous l'avez en tête? Alors, il lui dit ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça afin que cela serve de témoignage au sacrificateur, afin que cela leur serve de témoignage. Voilà. Donc nous allons méditer sur cette grande question qui me semble être la pointe du texte, en tout cas pour aujourd'hui. Reprenons le texte. Un lépreux, donc disposition lévitique, il est assigné à résidence, au sens pas d'un criminel, mais de quelqu'un qui est impropre à revêtir la citoyenneté du peuple de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le peuple de Dieu, il n'a plus le droit de participer à la fête à Jérusalem, il n'a plus le droit même de participer aux fêtes familiales. Il est interdit de séjour, de par ces textes. Sa situation est dramatique, parce qu'il est en bonne santé. Il a juste quelque chose sur lui qui a été déclaré par la loi comme étant une impureté. Et la loi est souveraine. Et puisqu'elle déclare « tu es impur, tu vas mener une vie impure ». Voilà, c'est la loi, c'est ainsi. Le lépreux vient à Jésus et il commet là une terrible effraction. J'ai écrit « effraction » au début sur mes notes, puis j'ai dit « mais non, ce n'est pas effraction qu'on utilise normalement, c'est une infraction ». C'est-à-dire, il est contrevenu aux dispositions de la loi, puisque, au lieu de se tenir à l'écart et de crier, il est venu vers Jésus. Et en fait, c'est une effraction, dans le sens où il est entré dans un espace dans lequel il n'avait pas droit. Et c'est un espace d'intimité, c'est l'espace d'intimité de Jésus. Il est à portée de main de Jésus. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et la géographie du lieu. Il y avait sans doute du monde autour de Jésus. Mais à ce moment-là, tous les participants ont certainement fui la présence de l'impur. Pourquoi ? Parce qu'ils s'y sont à proximité de l'impur, ils doivent, eux, passer par le processus de purification, qui est aussi prévu dans le Lévitique. Quelqu'un qui a touché un corps mort, quelqu'un qui a touché un lézard, quelqu'un qui, voilà, il est impur. Les lézards sont pas là pour l'entendre, mais voilà, c'est comme ça. Donc, ils ne voulaient pas avoir cette peine sur eux, donc ils s'éloignent. C'est pour ça peut-être que Jésus et le lépreux sont seuls et que Jésus peut dire quelque chose qui paraît un peu bizarre. Ne le dit à personne. Ne le dit à personne, il y a plein de monde là. Non, il y a peut-être justement personne. Personne qui a vu, personne qui a entendu ce qui s'est passé entre ces deux individus, Jésus d'un côté et l'impur de l'autre. Donc ce lépreux commet une effraction, il se jette aux pieds de Jésus et il l'implore. Il vient à lui. Ce lépreux connaît Jésus, donc sa renommée, elle est déjà établie. On le constate un petit peu plus haut dans le chapitre 1 au verset 28. La renommée de Jésus se répandait aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. C'est pour ça que ce lépreux, il ne se jette pas aux pieds de Jésus comme au hasard. Il a compris, il a saisi quelque chose de cette personne. Et voici que ce lépreux lui dit « Si tu le veux, tu peux. » Et là, c'est étonnant. Parce qu'il a fait une prière puissante. Ou exacte, c'est un peu bête de dire des choses pareilles, mais je veux dire, il a tapé de la bonne façon, parce qu'il a bien dit « si tu le veux ». Il n'a pas dit comme l'autre demi-croyant qui a dit « Seigneur, si tu le peux ». Et Jésus lui fait le reproche, justement, à ce monsieur qui dit « si tu le peux ». Tout est possible à celui qui croit. Et du coup, le demi-croyant, il se reprend, il dit « viens au secours de mon incrédulité ». Non, non, le lépreux, là, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il veut dire. « Si tu le veux, tu peux ». Et là, pour le coup, Jésus n'a aucune remarque vis-à-vis de cette parole de foi dense. À d'autres moments, il les aura. Pour un centurion romain qui va dire en substance la même chose, il dit « j'ai jamais trouvé une foi pareille ». Mais là, rien. Jésus, ému de compassion, ce mot-là est difficile à traduire parce que c'est le même qui est employé avec la rencontre de Jésus et Lazare qui est mort depuis 4 jours. Ému de compassion, saisi aux entrailles. Il y a comme quelque chose de l'ordre de la révolte, de l'insoutenable dans le cœur de Jésus. Il dit « ce n'est pas possible ». Cet homme-là est exilé. Il vit loin de tout. Dès qu'il voit du monde, il est obligé de crier « impur, impur ». Alors, est-ce que quelqu'un parle couramment l'hébreu ? J'ai essayé de savoir la sonorité de ce mot. Tu le sais, Robert ? Je sais que tu es un peu... Non, tu ne sais pas. J'ai écouté Lévitique 13. On peut écouter la Bible en hébreu sur Internet, c'est formidable. J'ai pas réussi à isoler trop le terme, comme je suis très très mauvais en grec. J'ai eu mon diplôme de théologie en grec un peu par gentillesse de mes professeurs. On va pas dire que je les ai soudoyés, non, mais voilà. Donc impur, voilà, cette situation, elle est dramatique. Elle fait réagir Jésus au niveau du plus profond avec une violence émotionnelle très grande. Et là, Jésus rentre dans une dynamique d'identité. Il est dit, il étend la main, il le touche et il dit. Alors nous, on lit ce texte, il étendit la main, il dit, oui, bon, ça c'est du langage sémite, c'est une répétition. Étendre la main et toucher, ça veut dire la même chose. Il aurait pu dire, il toucha le lépreux et il dit. Non, il y a là, dans ce contexte particulier, une gestuelle quasi cinématographique qui fait que peut-être que tous ceux qui voient un peu loin, ils voient Jésus qui va étendre la main et il ne va pas le toucher. S'il le touche, et peut-être ils n'entendent pas ce qui se passe. Et là, ils vont. Le seul qui va l'entendre, c'est donc cet impur qui entend ces paroles pour la première fois. Sois pur. Vous vous rendez compte ? Son univers était entièrement dominé par impur, impur, impur. Toute sa vie, jusqu'au plus profond et moindre détail, c'était impur. Et voilà qu'il entend ce Jésus qui dit « Sois pur ». Et aussitôt, la lèpre le quitta. C'est immédiat. C'est une résurrection. Il a pu le constater lui-même. Plus de lèpre. Donc, plus de conséquences de la lèpre, c'est-à-dire plus d'impureté. Et là, on bascule dans un étonnement, un grand étonnement. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Le texte grec emploie des mots qui autorisent cette traduction-là, s'emporte contre lui, le réprimant de sévères recommandations. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne parce qu'ils sont tout seuls et qu'ils veulent la confidentialité. » Donc il y a deux recommandations. La première là, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te... » la première recommandation, c'est celle-là. Dans une ambiance tendue, dans une ambiance de grand sérieux. J'ai fait partie de la communauté des journalistes, juste une journée. J'étais à Paris et un éditeur d'un journal d'église dans le sud me téléphone, me dit « Écoute, le président de la République va faire une allocution à l'UNESCO et à l'adresse des communautés chrétiennes ou protestantes. » Je ne sais plus, j'ai tout oublié de l'allocution en question, mais je me souviens d'un détail. C'est ce détail que je voudrais vous partager. Je suis entré à l'UNESCO, je me suis fait donc fouiller par les vigiles, j'ai dû montrer mon appareil photo et tout, ça me donnait n'importe quoi. On m'a remis le texte de l'allocution de Monsieur le Président de la République. Je l'avais. Alors, ça donnait toute une excitation, je me suis placé, j'ai pris des photos et tout. Et puis, j'ai commencé à lire le papier et en en-tête du papier, il y avait « embargo jusqu'au prononcé ». Oh. Embargo jusqu'au prononcé. Ah ! On n'a rien le droit de diffuser avant que la personne qui va parler va effectivement parler. Donc, tant que M. Chirac, puisque c'était de M. Chirac qu'il s'agissait, n'a pas dit son « j'avais pas le droit de tweeter », bon, il n'en avait pas à l'époque, mais... de dire à l'extérieur, Chirac va dire ceci. Non, 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 non. Embargo jusqu'au prononcé. Donc là, Jésus donne à ce lépreux la même recommandation. Il dit, ne dis rien à personne. Suspends ton témoignage. C'est fort quand même. Suspends ton récit de salut. Ne le dis à personne. Et ce n'est pas simplement une option. C'est un ordre. Et il dit « Mais va te montrer au sacrificateur », c'est-à-dire « Va voir l'autorité suprême, celle qui t'a prononcé impur, et va te montrer à elle. » Avez-vous remarqué le problème qu'il y a dans la dernière phrase ? Quelqu'un voit un truc là ? Ce sera pour eux un témoignage. La logique aurait voulu que, pour lui, ce sera pour toi, l'attestation officielle que tu es guéri, tu peux réintégrer la communauté des croyants. Pourquoi Jésus dit « ce sera pour eux » ? Et vous avez remarqué le singulier un peu plus haut, « va te montrer au prêtre, au sacrificateur », c'est au singulier, c'est-à-dire c'est l'institution. La personne qui représente tout l'appareil politico-religieux et social de l'époque. La personne, l'institution, l'organisation la plus importante qui gère toutes les affaires de la société juive. Il va se rendre là et c'est lui qui va attester de quelque chose pour eux. Mais c'est quoi ce truc? Et pourquoi il y met tant de réprimandes? Il dit c'est bigrement important, c'est pour ça qu'il le dispute et il lui dit fais gaffe, mets les choses dans le bon ordre. Va d'abord voir. Il n'y a pas d'abord. D'ailleurs, je voulais vérifier que dans les textes, pareil, il n'y a pas non plus d'abord. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais il n'y a pas d'abord, mais il y a mais. Va en priorité. En numéro un, après, tu fais ce que tu veux. Il ne lui dit pas ça, mais on peut imaginer qu'il ne lui interdit pas, par essence, jusqu'à la fin de ses jours, de ne pas raconter à ses amis, à sa famille, ce qui lui est arrivé. Il lui dit, non. Il y a un truc que tu dois faire. Tu vas le faire tout de suite. Et s'il te plaît, ne tarde pas. Va te montrer. Afin que cela serve à l'appareil juridique de témoignage. Et là, il y a un petit problème avec nous sur le mot témoignage et témoin. Le témoin, qui est encore utilisé aujourd'hui dans ce sens-là, c'est le témoin au sens de la police et de la justice. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui peut apporter un élément dans une enquête. Et les dispositions de l'époque exigeaient qu'il y ait, avant qu'une accusation soit donnée, la présence de deux ou trois témoins. Donc, le mot témoignage ici, ce n'est pas le témoignage qu'on a l'habitude d'entendre dans nos assemblées. Est-ce que tu peux donner ton témoignage? Est-ce que tu peux raconter les faits, les événements, comment tu as rencontré Jésus, comment tu as été amené à croire en Dieu, etc. Ça, c'est un faux ami, là, dans ce texte. Là, Jésus lui dit, toi, tu vas être un témoin devant l'institution légale. Et tu vas être quelque chose qui va, en quelque sorte, s'opposer, ou en tout cas attester de quelque chose. On va garder ça un petit peu sous le coude, et on va traiter le dernier paragraphe maintenant. Alors, le dernier paragraphe, « Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort, à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. » Donc, on en déduit que la désobéissance de cet homme a provoqué des problèmes logistiques et de fluidité du ministère de Jésus. On se dit, « Bon, ouais, c'est bête, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, donc du coup, Jésus, il est dans les bouchons. » Mais je ne pense pas que ce soit l'idée qui est transmise là, pour les raisons suivantes. Ce texte ne commence pas, comme vous le voyez là, par un « mais ». En grec, il y a deux mots même qui peuvent être traduits par « mais » et qui mettent en opposition deux textes. C'est le mot « kai » ou le mot « Allah », encore mieux. Par exemple, dans notre verset où le lépreux ne va pas un peu plus haut. Quand Jésus lui donne ses recommandations, il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre. » Et là, il est dit « Allah, A-L-L-A, rien à voir avec le nom de Dieu. A-L-L-A, ça se traduit donc « mais ». Donc, il y a bien une opposition entre les deux. « Ne va pas dire quelque chose, mais voir. » Et ça, c'est dans le texte. Mais là, pour le dernier paragraphe, « mais lui, une fois parti, le mais, là, il n'y est pas. » Donc, il faut lire, par exemple, « Offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ils auront un témoignage. Une fois parti, il se mit à proclamer, etc. » Donc, l'opposition est déjà un peu amoindrie dans le texte original. Ensuite, dans les deux textes parallèles de Matthieu et de Luc, ce dernier paragraphe n'apparaît pas, il ne semble pas donc qu'il soit vraiment la leçon centrale, bien qu'il y ait des tas de choses à apprendre certainement de ce paragraphe, mais peut-être pas lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Ensuite, la renommée de Jésus est déjà établie, bien établie, jusque, comme au verset 28, on l'a vu, et quelque part, j'ai un petit peu de la compréhension pour cet impur qui est pur, Pourquoi ? Parce que en me mettant à sa place, je me dis, mais attends, là, Jésus, il m'a demandé d'aller voir le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le numéro un de notre système d'adoration et d'appartenance à l'Église. Il me dit, mais ce monsieur, moi, je le connais. C'est lui qui m'a dit, impur. Et en prononçant ce simple mot, c'est lui qui m'a dit, voilà, dehors. Tu n'as plus de communion avec Dieu. C'est plus la peine de venir prier. C'est plus la peine de venir célébrer la Pâque. Tu fais plus partie des nôtres. Il s'en souvient très bien, ce lépreux. Peut-être même il avait caché ses taches au début, pour dire tant que personne n'a vu, ça va. Puis un beau jour, il s'est fait dénoncer, peut-être il y avait une tache sur le visage. Donc il s'est fait dénoncer, peut-être par des... Là j'invente, hein, c'est de la théologie fiction, mais ce n'est pas complètement irréaliste. Et ce monsieur, il dit, moi ce sacrificateur, je le connais. Je ne vais pas lui dire que je suis pur, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais aller le dire parce que j'ai la joie qui déborde, je vais pouvoir manger avec ma famille, je vais pouvoir prier avec eux, je vais pouvoir les rejoindre, les accompagner, on va faire la fête. Les fêtes chrétiennes ou les fêtes, les célébrations, ce sera... Voilà, alors il fonce, il ne peut pas se retenir, hein, en fait, en quelque sorte. Ça, c'est pour un petit peu l'excuser. Vous allez me dire, monsieur le pasteur, j'entends bien tous ces arguments, mais vous ne m'avez pas convaincu, il n'a quand même pas fait ce que Jésus avait demandé de faire. Ok, je vous l'accorde. Mais le problème... Ce n'est pas que Jésus ne pouvait plus entrer et sortir. Le problème, c'est que ce pur a mis la charrue avant les bœufs. Et c'est là où on va revenir à cette expression afin que cela serve à l'institution légale de témoin, de témoignage, au sens policier et judiciaire du terme. Reprenons l'itinéraire de cet homme. Une vie à l'écart de la communauté chrétienne et du lieu de rencontre avec Dieu. Une vie sans Dieu. Une prière, une guérison, un salut. Il est sauvé, il est pur. Il reçoit les recommandations pour sa vie chrétienne. Voilà. Si on fait le parallèle avec nous, nous étions sans connaissance de Dieu, Jésus est venu à notre rencontre, il nous a touchés, nous avons été sauvés, et nous entrons dans une phase qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire la marche avec Jésus, avec ses directions et ses instructions, pour vivre une nouvelle vie digne de l'appel qui nous a été adressé. Et là, ce texte a quelque chose à nous dire à nous, peut-être, dans le sens, qui vas-tu voir ? À qui vas-tu le dire ? Comment vas-tu le dire ? Ouh là là ! Alors, bon, réfléchissons. Notre habitude, c'est de témoigner, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait à l'occasion, dans certaines occasions, mais comment ça s'est fait que dans ta vie, un jour, tu en sois venu à devenir un membre d'église ou un croyant ? Alors, je raconte les circonstances, mon cheminement, mes parents chrétiens, ceci et cela. Je fais la deuxième partie hein, de ce que ce pur a fait. Mais je ne suis pas allé voir les autorités religieuses. C'est-à-dire, je ne suis pas allé voir la loi de Moïse. Je ne suis pas allé voir intérieurement pour moi-même cet endroit qui me disait « Tu n'as pas accès à Dieu, ni à sa compassion, ni à sa communication, ni à sa relation. » Je ne suis pas allé voir la loi de Dieu qui m'accusait et qui m'avait exclu. Ce ministère de la loi de l'Ancien Testament avait cette fonction de déclarer coupable le croyant. Je ne suis pas allé voir pour moi-même en me disant « Loi de Dieu, écoute, je suis pur. » Je vais voir Dieu ou son représentant dans le système religieux et je lui dis « toi la loi, je suis saint. Cherche, tu trouveras plus une tache. C'est ça que le lépreux n'a pas fait. Et c'est ça que nous faisons pas, parce qu'on n'ose pas. Ou alors, si vous le faites, continuez. Tenez-vous devant les exigences de la loi. Tenez-vous devant tout ce qui, à l'intérieur, vous accuse d'indignité et qui vous place de fait dans cette zone éloignée, plus ou moins, de cette voie ouverte dans votre communion avec Dieu. Et dites à ses représentants, regarde, cherche, tu trouves quelque chose qui va m'empêcher de prier mon Seigneur et mon Dieu. Cherche chez moi, tu vas trouver quelque chose qui m'empêche de serrer dans les bras mes frères et sœurs et me dire, je chemine. Voilà ce que ce lépreux n'a pas fait, et voilà sa vraie désobéissance. Et voilà pourquoi la violence de Jésus était violence, parce qu'elle était violence contre la loi. Jésus attendait de ce monsieur qu'il atteste de lui, Jésus, ce que ça fait quand le royaume de Dieu arrive. Quand le royaume de Dieu arrive, il arrive à faire ce que la loi n'a jamais réussi à faire. La loi n'a jamais réussi à rendre pur quelqu'un qui était impur. Elle n'a jamais pu que constater que quelqu'un est impur et doit être exclu. C'est un ministère de mort. Ça vous dit quelque chose ? Ça vous revient, ces expressions ? Un ministère de mort. Allez voir ces ministres de la mort. Et dites-leur, comme le pur aurait dû venir dans Jérusalem. D'ailleurs, ce n'était pas conforme à la loi. Là, Jésus a pris des libertés parce qu'il a dit « va voir le sacrificateur ». En fait, c'est le sacrificateur qui aurait dû aller chez le lépreux pour justement ne pas contaminer toute la communauté. Donc déjà, Jésus prend des libertés par rapport à la loi. Il dit « va voir le sacrificateur ». Et le lépreux aurait dû dire « je suis pur, je viens, je veux que tu attestes. Et je veux que tu attestes aussi, note bien dans la main courante et dans ma déposition que c'est Jésus qui l'a fait. Et il l'a fait comment ? Oula, mais c'était long, c'était un pèlerinage, il fallait traverser 3 fois le lac de Galilée, il fallait faire des galipettes, il fallait rester en quarantaine encore pendant... Non, il a dit, je le veux. Et il l'a fait. Ce que la loi est incapable de faire, Jésus le fait. Voilà. C'est ça votre témoignage devant celui, et vous êtes le premier à le faire, ou alors vous avez une constitution particulière, profitez-en, mais vous êtes le premier à vous accuser et à vous dire « je suis pas clean ». Si je me regarde honnêtement, non, je suis citoyen de seconde zone au mieux. Non, vous êtes au premier rang, vous êtes saint. Et à qui le devez-vous ? À celui qui a déclaré « je le veux ». Et ça, les Galates ne l'avaient pas compris non plus. Je parle des Galates, je ne vais pas être trop long, je ne sais plus où j'en suis là, si c'est long ou pas, on va essayer de conclure quand même, on va arriver au bout. Les Galates, c'est des chrétiens qui habitent en Turquie, quelque part, il s'appelle comme ça parce que paraît-il que le mot Galate vient des Gaulois. Parce que cette province était habitée par des Gaulois. C'est une hypothèse. En tout cas, Gauloises et Gaulois, écoutez ce que l'apôtre Paul disait à l'époque aux Galates. Il disait, mais vous avez perdu la tête. Vous êtes insensés. Alors, si vous voulez la référence, je vais noter. Vous êtes devenus fous. Comment pouvez-vous, au chapitre 4 de Galates, au verset 8, je le cite là, comment avez-vous fait pour retourner à ces principes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. En fait, ça, c'est Colossiens 2. Et dans Galates, il dit, vous êtes insensés. Après avoir commencé par l'esprit, vous vouliez finir par la chair. Vous observez les jours, les années, etc. Vous voyez pourquoi c'est important que ce pur aille voir les religieux. jour après jour, et lui disent ta, 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 ne m'embarque pas dans ton histoire là. Je n'en veux plus. Je suis pur sur déclaration divine. Pas seulement déclaration. Je suis pur par l'opération du Rédempteur. Et ça, rien n'est personne. Ne reviens pas. On a chassé la loi qui accuse et qui tue et qui exclut. On l'a chassée par la porte, mais elle est en train de passer par la fenêtre du KGB. Elle revient. Et là, Jésus nous dit, va voir le sacrificateur. Jésus étendit la main, toucha le lépreux. Waouh ! Il est devenu impur. Jésus est devenu impur. La loi du Lévitique stipule que celui qui est pur et qui touche quelque chose d'impur devient impur. C'est une folie. Les gens éloignés de ce duo-là, du lépreux et de Jésus, qui ont vu Jésus poser sa main sur le lépreux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça ? Jésus est devenu impur. Jésus, mon impur à moi. Celui qui est hors de la communion de Dieu, qui est jeté, selon la loi, jeté loin, parce qu'il est venu me déclarer cette purification. Amen.